C'est l'histoire de Sayed, qui a atterri à Lyon après 30 ans de voyage, d'exil, de ballottage entre les États, leurs frontières et leur diplomatie.
Mon père est palestinien, mais je suis né en Égypte.
Considéré comme un réfugié en Égypte, Sayed part au Liban dans l'espoir de trouver le travail qu'on lui refuse dans son pays natal. Mais il ne trouve pas de poste de marin, alors il enchaîne les petits boulots, clandestinement, pendant 2 ans.
Il y a eu
à un moment donné une possibilité pour les personnes irrégulières de faire des demandes de titre de séjour. Donc on a été sur le lieu où je travaillais, 4, 2 Égyptiens, un Tunisien et moi-même, donc palestinien. On a été à la police présenter un dossier papier. Un petit peu plus tard, les décisions sont arrivées. Il y a eu accord pour les 2 Égyptiens, pour le Tunisien.
Et moi, j'ai eu un refus.
Et sur ma demande, qui a été renvoyée avec le refus, il est écrit en rouge, le séjour n'est pas autorisé pour les Palestiniens.
Donc ils n'aimaient pas trop les Palestiniens, en fait, au Liban.
Pas du tout. Pas du tout. Ils sont pas du tout appréciés. Au contraire, les Palestiniens sont vus comme raison de tous les problèmes du pays, et en particulier à partir de 75, de la guerre civile.
Ça y est, dès les frontières, épisode 3. Retour en Égypte.
Au bout de 2 ans, j'ai décidé de me présenter par moi-même à la police frontière pour demander un retour à rentrer donc librement en Égypte. J'ai dû payer une amende et j'ai eu après un droit au séjour de 2 jours pour le temps d'organiser mon retour. J'ai acheté un billet d'avion. Le personnel à l'aéroport, personne qui a vu que j'avais passé 2 ans comme ça irrégulièrement au Liban, m'a même pagué. On me dit, comment t'as fait pour tenir 2 ans sans papier au Liban?
Alors, du coup, vous demandez à rentrer, vous sortez de la clandestinité, du coup, vous prenez une amende. Et vous devez quand même payer un billet d'avion pour rentrer en Égypte.
Arrivé à l'aéroport du Caire, on m'a demandé si j'étais égyptien, en tout en voyant mon document. Donc non, je ne l'étais pas. Et en plus, mon droit au séjour en Égypte était terminé depuis 2 mois. Ils ont décidé de me placer dans une sorte de zone d'attente, le temps de voir où ils pouvaient bien m'envoyer.
Donc
en fait, c'était plutôt une prison, ce qui était très difficile pour moi, je n'avais jamais connu la prison. Donc j'ai demandé déjà qu'on m'envoie dans n'importe quel pays, mais qu'on me libère, quitte à ce que je paye un billet d'avion. Ils m'ont dit, oui, mais le problème, c'est difficile de trouver un endroit qui t'accepte en tant que Palestinien.
Les autorités égyptiennes savent que vous avez passé 30 ans, que vous avez grandi, que vos parents sont sur le territoire égyptien. Comment ça se fait qu'ils ne veulent pas que vous rentriez chez vous?
C'était tout simplement la loi égyptienne et la loi, elle n'a pas de sentiment.
Sayed et les frontières.
Bah, malheureusement, j'étais habitué à ça.
Pour vous, c'était normal.
Normal.
Et la vie continue.
La vie continue. À suivre la semaine prochaine dans la méga combi.
J'ai décidé de partir et de rejoindre
Port-Soudan,
le désert soudanais. Vous écoutez Méga Combi, l'émission qui vous rhabille pour l'hiver avec une émission guerrière.
Annonçant que le ministère du Commerce s'apprête à lever l'interdit sur les pantalons à revers, la publicité d'un tailleur salue cet événement comme
le premier raconte de la liberté pour laquelle nous nous battons.
Si nous nous étions vraiment battus pour les pantalons à revers, j'aurais sans doute penché pour les forces de l'Axe. Les revers ne servent à rien, sauf à récolter la poussière. Et ils ne présentent aucun avantage, sauf les 6 pence qu'on y retrouve parfois quand on les nettoie. Mais sous le cri de jubilation de notre tailleur, il y a une arrière-pensée.
D'ici peu, l'Allemagne sera vaincue, la guerre pratiquement finie, le rationnement moins strict, et on assistera alors au retour fracassant du snobisme vestimentaire.
Voilà un espoir que je ne partage pas. Plus tôt cessera le rationnement alimentaire, et plus je me réjouirai. Mais je voudrais voir le rationnement vestimentaire se poursuivre jusqu'à ce que les mythes aient dévoré le dernier smoking et que les ordonnateurs de pompes funèbres eux-mêmes aient abandonné le haut de forme.
Jusqu'à ce que les mythes aient dévoré le dernier smoking.
Il me serait indifférent de voir la nation tout entière porter des uniformes teints pendant 5 ans si c'était le moyen d'éradiquer l'une des principales sources de snobisme et de jalousie.
Le rationnement vestimentaire n'a pas été conçu dans un esprit démocratique.
Mais il a tout de même entraîné une certaine démocratisation. Si les pauvres ne sont pas beaucoup mieux habillés, du moins les riches sont-ils plus miteux. Et comme aucun véritable changement structurel ne se produit dans notre société, le nivellement qu'engendre mécaniquement une simple pénurie vaut toujours mieux que rien.
C'est fini, Combi.
Non.
Combi, je crois que c'est fini, là.
Faut que tu tiennes le coup, Collapse.
Ah !
Tiens le coup.
C'est vraiment fini, Combi.
Mais non, c'est pas fini, Collapse. Pense à tes causes, merde.
Ah ! Donne-moi la main, putain, donne-moi la main.
Tiens, Collapse, accroche-toi.
Ah ! Tu diras aux auditeurs.
Ouais, quoi, Collapse ?
Dis-leur.
Mais qu'est-ce que je leur dis ?
Tu leur diras, donne... Ah,
vas-y, parle, Collapse, parle.
Tu diras aux auditeurs.
Garde les yeux ouverts, Collapse.
J'ai vachement aimé ce moment avec eux.
Je leur dirai, Collapse.
Dis-leur.
Je leur dirai.
Dis-leur de rester pour les infos et...
Ouais.
J'essaierai d'être là.
Accroche-toi.
Mercredi prochain.
Tu seras là.
Combi.
Ouais.
C'est fini, là.
Non, Collapse.
Ah. Ah.
Collapse.
Putain, mercredi prochain.
Moral subit le dernier jour des soldes.
La police parle de 820 000 personnes.
réseau qui nous intéresse.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Et bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, on est mercredi, il est 19h03 et c'est l'heure du Canu Info avec ce soir, on va partir à la ZAD, bientôt le retour des expulsions.
Ensuite, le progrès se retrouve devant le tribunal.
Bachar el-Assad qui n'en finit décidément pas de rigoler.
Ensuite, on a une petite interview qui n'est pas de nous mais qu'on a trouvée sur Arte Radio d'une personne du Gisti.
Rassemblement en soutien aux salariés de Prosegur.
Ensuite, on va aller à Grenoble où les riverains, avec beaucoup de guillemets, expulsent une famille de Roms.
Et l'antiterrorisme qui fait pchit. À Notre-Dame-des-Landes, après le rejet des recours environnementaux, des derniers recours environnementaux, les opposants font appel. Alors là, quand on parle des opposants, c'est les grosses associations d'opposants, la CIPA, la CDPA, l'ADK. Donc en gros, c'est les principales associations que certains appellent citoyennistes et qui sont contre le projet d'aéroport. Et ces assos ont annoncé aujourd'hui qu'elles avaient saisi la cour administrative d'appel de Nantes suite au rejet de leurs recours environnementaux par le tribunal administratif. Ça, c'était le 17 juillet dernier. Les associations contestaient devant le tribunal la validité des arrêtés préfectoraux qui autorisent le coup d'envoi des travaux. Et le tribunal donc leur avait donné tort en juillet. Il s'agit en gros de la dernière action judiciaire qui est possible contre le projet d'aéroport. Les opposants réclament un procès équitable en appel avec un examen moins orienté des règles environnementales et des alternatives à la destruction irréversible du bocage de Notre-Dame-des-Landes et des espèces qui s'y trouvent. Ces nouveaux recours n'étant pas suspensifs, les travaux sont juridiquement autorisés à démarrer. Une éventualité qui a été suggérée par le Premier ministre Manuel Valls cet été suite à la première décision de justice là-dessus. Les opposants réclament quand même le gel du chantier dans l'attente de l'arrêt de toutes les actions en justice. Bon, mais alors, ça reste une petite info, mais c'est quand même l'occasion de, par exemple, de trouver une interview dans Ouest France. C'est une interview qui date du 11 septembre, donc il y a 4-5 jours, du nouveau sous-préfet qui est en charge du dossier Notre-Dame-des-Landes et qui précise où il en est. Donc Stéphane Le Ribou, c'est le nouveau représentant de l'État en charge de ce dossier. Il est arrivé à Nantes en mai. Avant, il était commissaire au redressement productif en région de Bretagne. Et il se consacre désormais totalement au projet de transfert de l'actuel aéroport nantais. Dans l'interview dont on parle, le sous-préfet évoque la volonté affirmée de Manuel Valls de redémarrer le projet, un projet qui est donc gelé depuis 3 ans, et de lancer les travaux après avoir évacué les opposants de la zone, bien sûr. Les huissiers sont de retour dans la ZAD et pour relancer les procédures d'expropriation. Un accord de 2012 qui protégeait de l'expulsion les habitants de la ZAD en situation légale est désormais caduque pour Stéphane Le Ribou, donc ce nouveau sous-préfet. Le dernier arrêté préfectoral qui est nécessaire avant les travaux, donc il faut qu'il signe un truc qui s'appelle la dérogation à la protection du campagnol amphibie. Mais ça devrait être signé bientôt. Tout le monde se met en ligne pour être en capacité d'y aller quand le top sera donné. C'est bien ce que nous dit Stéphane Le Ribou. Alors, bien sûr, il se garde de donner une date, mais il indique que l'État n'attendra pas le résultat d'un probable recours contre l'arrêté, donc l'arrêté de dérogation à la protection du campagnol amphibie. Ça voudrait dire perdre encore un an et sans doute nous renvoyer après l'élection présidentielle. Ça c'est ce qu'il dit. Compte tenu du calendrier politique, la fenêtre chronologique d'une éventuelle intervention pourrait se situer entre fin décembre et le début du mois de mars. En tout cas, c'est ce que pensent les opposants qui reconnaissent sentir monter la pression. Alors bien sûr, pourquoi est-ce que ça ne peut pas se passer avant décembre? C'est qu'avant, il va y avoir les élections régionales, donc ils vont avoir autre chose à foutre. Et la conférence sur le climat. Alors bien sûr, les socialistes ne peuvent pas vraiment se permettre d'expulser Notre-Dame-des-Landes pendant la conférence sur le climat. Et de toute façon, c'est ça là, de toute façon, les élections régionales, la conférence sur le climat, personne n'imagine durant cette période une opération de maintien de l'ordre complexe et de grande ampleur. C'est ce que nous dit Ouest France, et à fort retentissement national. Alors, qu'est-ce qu'en disent les opposants sur, bah, moi, je suis allé voir sur le site zadnadir.org. Et là, il y avait un article où il disait en particulier ça, quand même. Bon, après avoir tempéré la probabilité qu'il y ait une intervention vraiment rapide, et même en réalité, la personne qui a écrit l'article se dit que c'est pas sûr qu'il va y avoir une intervention avant la fin du quinquennat, mais en tout cas que c'est possible, qu'il faut s'y préparer. Et donc cette personne pense aussi que le gouvernement aura tiré les leçons de la dernière tentative d'expulsion massive, donc ça c'était il y a 3 ans, à la fin de l'année 2012, à l'automne 2012. Et donc il écrit, il faut s'attendre aussi à vivre une période préparatoire où ils vont chercher sérieusement à nous diviser et à faire monter une animosité d'une partie des gens des bourgs, donc des villes qui sont sur la zone, mais aussi plus généralement de la population de ce pays face à nous. Par tout un tas de moyens répugnants et de grosses manipulations en mode reportage M6, montée en épingle de faits divers, etc. Coups de pression divers et variés. Cette guerre de la com et cette mobilisation des élans réactionnaires est une clé de la réussite de leur opération et un préalable nécessaire pour eux pour agir. Bah, très bien, camarades, et bien, cette guerre de la com, voilà, on la rattaque avec vous.
Et bon, on va rester sur le thème de la guerre de la communication, puisque hier, le journal Le Progrès comparaissait devant le tribunal correctionnel de Lyon pour sa une du 22 avril 2014, qui avait fait scandale, vous vous en rappelez sûrement. Sur la une, on pouvait voir une photo d'illustration avec un type cagoulé, pied de biche à la main, et du coup, cette une était titrée « Délinquance, qui fait quoi dans le Rhône ?» Et à l'intérieur du journal, le journaliste nous faisait une petite catégorisation avec une belle infographie qui triait entre chaque type de méfait qui commettait les délits. Alors on avait par exemple pour vol de ferraille, 2 points, Rome, gens du voyage. Pour petit vol, nous avions locaux, gens du voyage, Rome. Et pour cambriolage, nous avions Georgien, Albanais, Rome, gens du voyage, locaux, entre parenthèses, groupe des cités, toxicomanes, autres, fermez la parenthèse.
Mais ils ont complètement oublié les Arabes.
Et je pense qu'ils sont inclus dans le groupe des cités.
Ah oui, bien sûr.
Bref, vous l'aurez compris, une qui reflète bien le sérieux de notre quotidien local, puisqu'il est quand même interdit de produire des statistiques sur l'origine ou l'origine supposée des personnes. SOS Racisme avait déposé plainte pour fichage ethno-racial, diffamation raciale et provocation à la haine raciale et à la discrimination. Hier, le procureur a eu la bonne idée de plaider pour la relaxe, ce qui n'est pas très très étonnant pour le parquet. Le rendu du procès sera pour le 17 novembre. Bon, qu'il soit condamné à verser du fric, on s'en fout un peu, puisque le mal quand même est déjà fait. Mais si les journalistes du Progrès se mettent à réfléchir à 2 fois avant d'écrire des conneries, bon, déjà le nombre de pages risque de diminuer sérieusement et un paquet de journalistes risque de démissionner. Mais bon, je vous rassure, même après ce mini-scandale et même après soit la relaxe, soit une condamnation, le Progrès continue et continuera à écrire des articles qui sentent bon le racisme.
Guerre de la com, 3e étape pour ce soir. Cette fois-ci, c'est Bachar el-Assad. Alors, Bachar el-Assad, qui est pas globalement un joyeux personnage, mais c'est vrai que quand il donne des interviews, eh ben, une fois de temps en temps, on peut dire qu'il sait rigoler aussi. On se souvient qu'en 2011, il avait parlé à la télé syrienne et il avait expliqué qu'il était pour rien dans les 4000 morts selon les Nations Unies qu'il y avait eu en Syrie au moment de l'interview. Il était pour rien dans les actes de torture, les arrestations d'enfants. Il démentait avoir donné l'ordre de tirer sur les manifestants et il déclarait « Nous ne tuons pas notre peuple, aucun gouvernement ne tue son peuple, à moins qu'il ne soit dirigé par un fou ». Donc ça, c'était Bachar el-Assad en 2011. On se souvient que, ça c'était il y a 2 ans je pense, au moment des manifestations en Turquie contre le président Erdogan,
tout à fait.
Ouais, Gezi. Les manifestations contre le parc Gezi au départ, mais qui s'était transformé en une sorte de printemps turc. Bon, ça avait un petit peu bastonné, il y avait eu des gens qui étaient fait assommer par les flics, en réalité il y avait eu des morts, il y en avait eu 8. C'était le moment où en Syrie, c'était la guerre civile battait son plein, et 8 morts, c'est ce qui se passait en quelques minutes en Syrie à ce moment-là. Eh bien, Bachar el-Assad, qui est très rival avec Erdogan, comme ça, il s'aime pas bien. Bachar el-Assad, à ce moment-là, avait comme ça publiquement à la télé proposé l'asile politique à tous les opposants turcs qui auraient voulu fuir ce régime assassin dans lequel ils vivaient. Ça, c'était Bachar el-Assad en 2013. Et maintenant, on est en 2015. Et aujourd'hui, eh ben, il accuse l'Occident de duplicité contre les réfugiés. Alors, non pas, comme on pourrait le croire, à cause des sortes de valses hésitations de ces derniers jours-là, de « oui, on va en prendre, non, on va pas en prendre, bon, d'accord, venez, mais en fait, non, finalement, venez plus, on vous adore, on vous déteste, vous noyez vos enfants, alors vous pouvez rentrer, mais en fait, finalement, oh là, mais vous êtes plus de 4, alors non, en fait, on va refermer tout ça, etc., etc. » Non, non, celui-là, c'est pas du tout de ça qu'il parle. Lui, eh ben, il dit que, il dit que l'Occident soutient les terroristes et donc est lui-même responsable de l'afflux de réfugiés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'Occident soutient les terroristes dans la bouche de Bachar el-Assad ? Eh ben, il faut bien comprendre que quand Bachar el-Assad dit terroriste, il veut dire tous ses opposants en Syrie. Alors, bien sûr, Daesh, Al-Qaïda, les différents djihadistes. Évidemment, l'armée syrienne libre, évidemment, tous les petits mouvements de résistance qui existent encore en Syrie. Et puis, tant qu'on y est aussi, de toute façon, il a toujours utilisé le mot terroriste pour désigner des manifestants pacifiques, par exemple. Voir le gamin de 13 ans qui s'était fait couper en morceaux par la police en 2011, et la police qui avait rendu le corps à ses parents, mais vraiment en plusieurs morceaux, lui-même était un terroriste de manière évidente. Il était à une manifestation, hein, ce gamin. Donc l'Occident soutient les terroristes, c'est bien ça. Et donc comme ce sont les terroristes qui font fuir la population, que Bachar lui-même ne cherche qu'à protéger, eh ben, l'Occident est complètement dans une sorte de double discours en plaignant les réfugiés, mais en soutenant les gens qui les massacrent. Bon, alors, d'un côté, ça pourrait être rigolo, mais... ce que je vais dire maintenant pourrait être rigolo aussi, c'était pas tragique, mais c'est que même François Hollande a écouté Bachar el-Assad. En fait, il l'a même écouté avant même que Bachar el-Assad ait parlé, parce qu'on dirait plutôt qu'il l'a écouté il y a une semaine, au moment où il a décidé qu'il était temps d'aller frapper Daesh pour résoudre la crise des migrants. Bon, alors, on a bien compris que le discours de Hollande et du gouvernement français là-dessus, c'est... comme on ne peut pas non plus complètement les foutre dehors, blinder nos frontières comme la Hongrie ou je ne sais pas quoi, ça passe pas très bien. Le mieux, c'est de s'attaquer à la cause, et la cause de la migration des Syriens, en tout cas, c'est parce qu'ils se font massacrer par Daesh. Donc, d'où cette idée qui revient, d'aller bombarder Daesh. Bon, bombarder Daesh, très bien. Mais il faut quand même se souvenir pour le gouvernement français, qui quand même plutôt fait semblant de ne plus y penser, mais qui veut plus montrer qu'il fait quelque chose que faire réellement quelque chose. Il faut se souvenir que sur les 240 000 personnes qui ont été tuées en Syrie depuis 2011, les estimations les plus sérieuses disent que Bachar el-Assad en a tué environ 4 fois plus que Daesh. Je dis pas ça pour défendre Daesh.
Eh ben, on va s'écouter le petit reportage dont on vous parlait tout à l'heure sur une personne qui nous donne un peu son point de vue sur la migration.
Arte Radio présente L'autre gouvernement. À la liberté d'aller et venir, Madame Claire Rodier.
En tant que ministre de la liberté d'aller et venir, je propose qu'au cours des 5 ans qui viennent, soit progressivement instauré un nouveau régime de franchissement des frontières fondé sur un principe de fluidité. Vous aurez compris que mon projet ne concerne pas que mes citoyens. Il ne s'inscrit pas dans le seul cadre national. Il ne peut d'ailleurs être mis en œuvre qu'en coordination avec nos partenaires de l'Union européenne, et j'entends faire de cette question le thème phare de la présidence française de l'Union en 2008. Pourquoi un ministère de la liberté d'aller et venir ? Parce que pouvoir partir... c'est parfois le seul moyen d'espérer étudier, travailler, se soigner, si dans le pays où l'on vit, on ne peut satisfaire ses besoins de base. Dans certains cas, pouvoir partir constitue même une nécessité impérieuse, lorsque c'est la seule chance de survie parce qu'on a besoin de manger ou parce que l'on a soif de démocratie. Les deux sont également indispensables à l'être humain. Mais la liberté d'aller et venir est aussi celle de revenir chez soi. Si les gouvernements qui se sont succédés en France depuis 30 ans avaient compris que plus on verrouille les frontières, plus on empêche ceux qui ont migré de prendre le chemin du retour de peur de ne plus pouvoir repartir, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, après 30 réformes de la loi sur les étrangers, la question des sans-papiers n'est toujours pas réglée. Cet objectif de fluidité des frontières n'est pas une pure utopie. La meilleure preuve, c'est que la liberté de circulation existe déjà. Aujourd'hui, une partie importante, quoique minoritaire, de la population mondiale en jouit déjà presque totalement et peut passer du territoire d'un pays à un autre en n'ayant à produire qu'un passeport et parfois un visa, formalité qui ne lui coûte que quelques dizaines d'euros. La liberté d'aller et venir est donc aussi une exigence d'égalité. Au nom de quoi serait-elle réservée à ceux qui ont la chance d'avoir la nationalité d'un pays riche ? Pourquoi ceux que la malchance a fait naître du mauvais côté de la planète n'auraient-ils comme alternative que d'être choisis, s'ils correspondent aux besoins des économies occidentales, ou assignés à résidence chez eux au mépris du droit international ? La première mesure qui s'impose est la suppression des visas de court séjour. Outil clé du contrôle des frontières, la politique des visas est opaque, vexatoire, injuste et bien sûr discriminatoire puisqu'elle ne s'applique pas de la même façon selon qu'on est un touriste prêt à dépenser ses devises ou qu'on constitue ce que le langage administratif appelle un risque migratoire. Vous avez déjà vu une file d'attente devant un consulat de France à Tunis ou à Bamako ? Est-il normal que des grand-mères marocaines se voient refuser le visa qui leur permettrait de faire connaissance avec leur petit-fils nouveau-né en France ? Ça arrive tous les jours pourtant. Et il y a plus grave. Cette politique des visas est aussi meurtrière. Plus de 6 000 personnes qui n'avaient aucune chance d'obtenir le précieux sésame sont mortes en 2006 entre la côte mauritanienne et les Canaries en tentant de passer illégalement en Europe. Croyez-vous qu'en édifiant toujours plus de murs, on empêchera la volonté farouche des jeunes Africains en quête d'une vie meilleure de risquer la mortelle traversée ? Non, bien sûr. Car les solutions ne passent pas par la militarisation des frontières. Il faut une autre conception des rapports entre le Nord et le Sud, c'est-à-dire que nos sociétés acceptent de remettre en cause certains dogmes, comme le caractère indispensable de la croissance, par exemple, ou encore qu'elles renoncent à des habitudes de consommation qui mettent en jeu l'équilibre environnemental de la planète. L'ONU estime à 60 millions le nombre de personnes qui auront migré avant 2020 vers l'Afrique du Nord et l'Europe à cause de la désertification. Ça nous concerne tous, et nos visas et autres miradors n'y pourront rien. C'est pourquoi vous comprendrez que face à ces enjeux, mon ministère n'agira pas de façon isolée, et c'est l'ensemble de l'autre gouvernement qui sera mobilisé. Claire Rodier, je suis juriste, je travaille au GISTI, groupe d'information et de soutien des immigrés, et je suis également présidente du réseau Migre-Europe, un réseau européen de chercheurs, de militants associatifs, qui réfléchit aux questions de politique de contrôle des frontières.
En 2007, votez Arte Radio.
La totalité des salariés des agences de la société Prosegur à Lyon ainsi qu'à Valence et Saint-Etienne sont en grève. Alors les salariés se battent pour le maintien de leurs primes que la direction veut leur sucrer. Dans ces primes, il y a notamment la prime de risque due à leur boulot, qui est quand même de se trimballer avec des camions remplis de billets. Les grévistes se retrouvent face à une direction complètement sourde, comme bien souvent dans ce genre de conflit. Et donc elle refuse tout dialogue et ne refuse d'accéder bien sûr à leurs revendications. Ça fait plusieurs jours, ça fait depuis le 10 septembre qu'ils sont en grève. Pour continuer de leur mettre la pression à cette hiérarchie, les salariés de Lyon appellent à un rassemblement demain à partir de 9h30 devant l'entreprise de Prosegur. Et le rassemblement se situe au 88 avenue Général Frère, à Long 8e. Venez nombreux.
Alors, l'histoire suivante se passe à Grenoble, et même pas exactement à Grenoble, mais plus précisément à Saint-Martin-d'Hères, là, qui est une des villes de l'agglomération grenobloise. À Saint-Martin-d'Hères, jusqu'à vendredi dernier, il y avait une maison qui était habitée par une famille de Roms qui, il faut bien dire, squattait la maison en question. Mais vendredi, eh ben, ces gens ont été expulsés. Expulsés, attention, non pas par la police, mais bien par les riverains. Et ils se sont barrés comme ça, sous les cris de joie d'une foule en délire. On peut assez facilement trouver la vidéo de tout ce que je vais vous raconter sur Internet. Entre autres, là, ce que je dis est principalement tiré d'un article dans Les Inrocks, où on peut voir la vidéo. C'est la troisième expulsion que subit cette famille, qui s'était installée dans cette maison mardi dernier. Mais cette expulsion-là a été particulièrement violente. Et donc vendredi, une foule bruyante, qui nous dit l'article, fait penser à celle des chasseurs de Frankenstein. Du coup, vraiment une sorte de petite ambiance lynchage. C'est réuni devant la maison, et alors on les voit, les gens, sur la vidéo. C'est vraiment de la caricature de manif de droite, quoi. C'est vraiment... Enfin bon, après, voilà, vous voyez, l'aspect des gens, blabla, n'empêche qu'on retombe dedans, quoi, c'est fou. Le propriétaire qui avait fait appel à ses amis et ses voisins explique à France 3 « Comme j'ai vu que les choses n'avançaient pas trop du côté de la police, j'ai fait appel aux voisins. Sans haine, sans rien du tout, uniquement pour récupérer mon bien. Je n'ai rien contre les Roms, mais je n'aime pas cette façon de procéder. » Pourtant, la façon de procéder des riverains, l'agressivité, les cris, les poings levés et les tentatives de forcer le grillage de la maison, que tout ça qu'on peut voir sur la vidéo, ne ressemble pas vraiment à une manifestation pacifique et dépourvue de haine. Dans les gens qu'on voit sur la vidéo, il y a aussi des personnes qui sont venues pour défendre les gens qui habitaient dans la maison, en particulier des personnes autour du collectif La Patate Chaude, qui est un collectif à Grenoble qui essaye globalement de se battre pour que les Roms dorment ailleurs que dans la rue. Et voilà. Et du coup, à une fille qui défend les gens, une manifestante répond « Accueille-les tous chez toi et on verra après l'argument typique des gens qui n'aiment pas les Roms et qui voudraient surtout que personne ne s'occupe d'eux, en sachant que quand même, je pense qu'une fois sur deux où cet argument est utilisé, il est utilisé face à des gens qui effectivement accueillent des Roms chez eux, dans leur maison, dans leur salle de bain et dans leur cuisine. » Christine, qui a un faux nom, un nom qui a été changé par le journaliste, du collectif La Patate Chaude, explique « Nous savions qu'il allait y avoir une mobilisation des voisins, alors nous avons appelé la mairie afin qu'elle joue son rôle de médiateur. C'était son rôle d'expliquer aux gens qu'il existe un droit du logement. » Mais bon, la mairie, visiblement, n'en a vraiment eu rien à foutre.
Pourtant, il y a une mairie comme ça, tout gauche, hein, comme on l'a vendue.
Saint-Martin-d'Air ?
Ah non, oui, Saint-Martin-d'Air, c'est pas Grenoble, pardon.
Ouais, Saint-Martin-d'Air, je me rappelle plus. Christine continue en disant « Le droit a été bafoué, d'une part parce que les riverains n'ont pas le droit de se constituer en milice, ça se fait pas. Alors bien sûr, ils sont pas rentrés dans la maison, mais ils sont quand même bien acharnés et ils hurlaient des invectives sexistes et racistes, ce qui effectivement n'est pas non plus légal. D'autre part, Christine insiste sur le fait que le propriétaire n'a pas suivi la voie légale. En effet, ami propriétaire, si un jour vous revenez et que votre maison, alors je parle pas de votre logement principal, hein, je parle de la maison que vous aviez fermée il y a 4 ans et à laquelle vous étiez plus du tout intéressé, et ben si vous rentrez et que vous rendez compte qu'il y a des gens dedans, vous ne pouvez pas appeler vos amis à les latter les gens qui sont dedans et les dégager à coups de pied au cul. Vous êtes obligé d'entamer une procédure devant un tribunal et oui, ça risque de vous prendre quelques semaines. Et ben ouais, c'est comme ça. Sous les applaudissements du rassemblement, la police finit par arriver. Et là, la famille sort de la maison. Dans la terreur et sous la pression, selon Christine, bah effectivement, quand on voit la vidéo, on se dit qu'on n'aimerait pas trop être à leur place parce qu'en vrai, les flics sont quand même là, en réalité, à les protéger d'une foule qui a envie de les lyncher. Donc, on rappelle que la famille aurait pu rester dans la maison légalement si la loi avait été respectée. Le maire de la ville, c'est... La mairie, finalement, est intervenue quand même. La mairie est intervenue et elle a financé 3 nuits d'hôtel.
Ah.
C'est cool, ils n'ont plus de maison, mais ils vont pouvoir dormir à l'hôtel pendant 3 nuits. Et puis finalement, ils se sont même laissés attendrir. Et quand les 3 nuits ont été terminées, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis la main au portefeuille et ils ont lâché 3 nuits supplémentaires. La famille est, comme qui dirait, sauvée. La maison, bien sûr, était inoccupée depuis des années. Le logement venait d'être vendu, mais de toute façon à quelqu'un qui comptait pas du tout en faire sa résidence principale, quelqu'un qui s'appelle Roger Mazoyer. Roger comme Roger Mazoyer, M-A-Z-O-Y-E-R. Et voilà, la famille, les 3 gamins qui sont scolarisés, vivent dans la région de Grenoble depuis longtemps. Ils vivaient avant dans le bidonville de l'agglomération, mais le bidonville a été dégagé en juillet dernier. Alors, bien sûr, sur les 400 personnes qui habitaient dans le bidonville, il y en a 147 qui ont été relogées. Et ben, eux, ils faisaient plutôt partie des 353 autres.
Alors, et ben, quand l'antiterrorisme fait pchit. Alors, tout d'abord, faisons un petit tour au Texas, où un môme de 14 ans s'est fait arrêter par la police dans son lycée parce qu'il était suspecté d'avoir une bombe sur lui. Bon, quand même, la bombe en question, il s'agissait d'une horloge qu'il avait fabriquée lui-même en bon geek qu'il est. Il explique qu'un professeur a cru que, que c'était une bombe, puis le principal, accompagné d'un flic, sont venus le chercher et l'ont emmené dans une salle où il y avait 5 autres policiers. Il a été fouillé, menotté, conduit dans une prison pour mineurs où on lui a pris ses empreintes. Donc là, on parle bien d'un enfant de 14 ans qui amène tout content à son professeur de techno sa nouvelle fabrication. Oui, mais sauf que ce que je ne vous ai pas précisé, c'est qu'il s'appelle Ahmed Mohamed. Avec un prénom pareil.
Bah aussi, il cherche.
C'est ça, on aurait presque pensé qu'il. On se dit qu'il a déjà eu de la chance de ne pas finir à Guantanamo directement. Mais malgré cette belle démonstration de racisme de la part de ses professeurs et des flics, certains enseignants ont quand même déposé plainte contre Ahmed Mohamed. Et oui, ces enseignants l'accusent d'avoir monté un canular.
Les enseignants sont toujours, toujours du côté de l'antiterrorisme. Ils font toujours des merveilles, comme ceux qui avaient balancé le gamin qui avait 8 ans et qui avait dit qu'il n'était pas Charlie en janvier dernier.
Eh ben, revenons sur les trucs post-après l'attentat, là, un peu plus près de chez nous, à Saint-Quentin-Fallavier. Vous vous souvenez de ce nouvel attentat qui frappait une nouvelle fois la France. Un salarié s'introduit sur un site industriel sensible, ou un site qui fabriquait du gaz, il me semble, décapite un gars et on apprend ensuite que le gars en question, c'est son patron. Bim, bam, boum, suivi en direct sur les sites d'actu, alerte info, le quartier est bouclé, mon Dieu, oh mon Dieu. Il y a vraiment des terroristes partout, même à Saint-Quentin-Fallavier. Bon, bah, en fait, après expertise, il s'agirait plus d'une vengeance d'un salarié sur son patron suite à de multiples grimades que d'un attentat. Le salarié avait juste pensé qu'il s'il mettait en scène la décapitation avec des drapeaux où il y avait des inscriptions en arabe dessus, son acte aurait un peu plus une grosse portée médiatique, ce qui fut forcément le cas. Pour les experts, il faut rester très très prudent quant aux motivations terroristes. Bon, et comme les flics ont eu quand même besoin d'appeler des experts psychiatriques pour savoir s'il s'agissait d'un acte terroriste ou non, on imagine assez bien que dans leur petite fiche, il n'y a pas grand-chose, voire rien du tout. Bon, et il est 19h30 et on touche à la fin de ce Canu Info. Parce que bah voilà, parce qu'on n'est que deux à vouloir.
Ah bah c'est les restrictions budgétaires.
C'est ça, plus d'argent, en plus des tempêtes, on a risqué nos vies. Il y a déjà deux personnes qui sont mortes dans le département et dans la Loire là pour à cause du vent. Du coup, quand même, on a bravé les intempéries pour venir.
Et qui donc ne sont pas là pour faire le Canu Info.
Exactement, nous sommes en deuil ce soir. Voilà, mais pour finir ce Canu Info, juste ce soir, il y a un reportage, j'ai vu ça sur le site de l'UMA, de Grégoire Degnaud, qui est lauréat du prix Albert Londres 2005 pour un reportage qu'il a fait sur la traversée des frontières. Et là, c'est dans l'émission, il me semble, Investigation. Le titre du reportage, c'est Mercenaires, des idéalistes contre Daesh sur France O. Bon, alors le terme mercenaire, je le trouve un peu ambigu, mais bon. C'est ce soir, en tout cas, à 20h45 sur France O, et c'est un reportage qui suit des combattants étrangers qui sont ralliés aux côtés des Kurdes pour combattre Daesh.
Ah, mais tu veux dire comme les bikers hollandais qui sont partis,
ouais,
qui sont partis faire la guerre ?
Je sais pas, il a l'air d'avoir suivi tout un tas de gens complètement différents, un Français, un Américain, bref, plein de gens, j'imagine, pour tout un tas de raisons. En tout cas, ils voulaient tous péter la gueule à Daesh. Voilà, c'est en tout cas côté orientation politique, c'est un reportage qui défend également la cause des Kurdes. C'est important de le souligner. Voilà, moi bon, je pense que ça vaut le coup de le regarder soit ce soir sur France O, je ne sais pas du tout sur comment on chope France O, mais j'imagine sur la TNT.
PMC.
Voilà, bref, ça se téléchargera un moment, débrouillez-vous, mais en tout cas, ça a l'air sympa.
Tu nous redis le titre qu'on puisse éventuellement le trouver
Alors, ça s'appelle Investigation 2. Mercenaires, des idéalistes contre Daesh. et c'est ce soir à 20h45 sur France O.
Ok, et ben météo, il y a du vent.
Et nous avons donc fini avec la météo et fini avec ce Canu Info. On vous laisse avec un peu moins de 30 minutes de bande continue et qui laisseront la place a priori à Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Ciao.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci à vous.
Le lac a l'air d'une petite flaque. T'es-tu baigné? L'eau doit être glacée.
Tchou-tchou, tchou-tchou-tchou.
Oui, ma 43 vaches n'est pas une petite tâche. Pour les compter, tiens, tu pourrais m'aider.
Tchou-tchou, oui, ma.
J'aime Jean-Luc Godard, j'aime Jean-Luc Godard.
Je ne vais plus beaucoup au cinéma. Ah, depuis que j'y vais sans toi.
Week-end.
Je ne vais plus du tout au cinéma.
Alphaville.
Ton histoire, elle peut rester stoïque. Dénonce le système qui resserre les chaînes. Qui efface la mémoire à la télé sur toutes les chaînes. Contre les politiciens, qu'on construit le royaume Babylone. Qui écrase tous les hommes, contre les